Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ce sont plutôt les entreprises ou les entrepreneurs qui choisissent leurs financeurs, qui choisissent leur fonds de capital risque, plutôt que l'inverse.
Bienvenue dans Take Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner et merci à vous d'être là pour cette deuxième saison. Vous pouvez nous suivre sur les plateformes d'écoute habituelles, iTunes, Deezer, SoundCloud et toutes les autres. Ce jour-là, le froid de cette fin février est encore bien tenace, saisissant. Dans une ruelle calme de Montreuil en région parisienne, Fleur Pellerin démarre sa journée qui, comme à son habitude, sera chargée, avec un thé et une énergie débordante. Désormais à la tête de son propre fonds d'investissement Corellia Capital, qui a notamment soutenu des startups comme De Vialet, Ledger ou Chef Club, elle milite au sein de la French Tech pour accélérer sa croissance et parcourt le monde pour en vanter toutes ses qualités. Cette activité est d'ailleurs l'un des seuls liens qui la relie encore avec ses fonctions d'ancienne ministre. Désormais, elle l'assure, toute son énergie est dédiée aux jeunes pousses qu'elle accompagne. Je suis Guillaume Brégeras, journaliste aux Échos, et je vous invite à confortablement vous installer pour profiter de cette conversation. Bonne écoute. Fleur Pellerin, bonjour.
Bonjour.
Et merci de me recevoir chez vous à Montreuil. Première question, il n'est pas très tôt, mais on est quand même encore le matin. Est-ce que vous avez une routine matinale?
Alors, j'ai une petite routine matinale. Ouais, depuis que j'ai moins de contraintes en termes d'emploi du temps, je prends un peu plus de liberté le matin. Je suis moins pressée, donc j'aime bien passer pas mal de temps dans mon lit déjà à lire les dépêches, à lire ce qui s'est passé aux États-Unis, parfois aussi un peu en Asie, puisque je travaille beaucoup avec l'Asie. Donc, je lis les dépêches d'agence, je lis les articles. Donc, je passe pas mal de temps sur différentes applis. Et puis après, petit-déj, plus ou moins en famille, ça dépend. On a tous des emplois du temps un petit peu différents. Les enfants partent tôt maintenant parce qu'ils ont cours assez tôt au lycée. Et puis voilà, et après direction le bureau en général vers cette heure-là, vers 9h.
D'accord. Et souvent vos anciens collaborateurs, notamment dans votre vie passée politique, disent que vous avez toujours un temps d'avance sur eux, sur les dossiers, etc. Donc est-ce que justement le matin c'est un des moments que vous prenez, comme vous dites, pour vous plonger dans l'actu, mais aussi pour dans des dossiers plus techniques?
Pas vraiment, parce que pour moi la maison a toujours été un peu un sanctuaire. Je suis quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de mal à travailler chez moi. Donc pour moi il faut qu'il y ait une segmentation très claire dans les lieux de vie et de travail. Donc j'aime bien chez moi faire le moins possible qui sont en rapport avec le travail, et en revanche quand je suis au travail je suis à 100% dans le boulot. Donc je suis pas tellement quelqu'un qui ramène trop de soucis et de réflexions professionnelles à la maison, même si évidemment avec les téléphones, les ordinateurs, on est toujours un peu connecté, mais j'essaye de segmenter un peu.
Et vous avez quelques applis fétiches justement le matin?
Bah, le matin, c'est surtout les applis de la presse que je paye. Je suis heureuse que les modèles de médias aient trouvé une monétisation, parce que c'était un grand sujet lorsque j'étais ministre en charge du numérique puis de la culture. Donc, je trouve que c'est pas mal de pouvoir contribuer au modèle économique de la presse. Et puis, sinon, les réseaux sociaux, beaucoup, parce que je suis un certain nombre de comptes qui me permettent d'être au fait de tout ce qui se passe des États-Unis à la Corée.
D'accord. Lorsque vous avez démarré l'activité de Corellia, c'était donc il y a 2 ans maintenant déjà.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a motivé principalement? Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer ce cap de l'entrepreneuriat alors que vous aviez fait quand même votre carrière dans l'administration?
Alors, c'est en fait un concours de circonstances assez heureux pour moi, parce que je n'avais pas forcément anticipé que ma carrière allait prendre ce tour-là. En fait, ça s'est passé en deux temps, je pense. La première phase, ça a été, j'ai été sollicitée par un fonds existant, éventuellement pour envisager de rejoindre son équipe dirigeante. Et donc, ça m'a mis l'idée en tête, alors que je ne l'avais pas du tout forcément. Et puis finalement, ensuite, la deuxième phase, ça a été un voyage que j'ai fait en Corée, où j'ai été en contact avec le fondateur de Naver, qui est une entreprise que j'avais rencontrée pendant mes fonctions, avec laquelle je n'avais pas eu de contact entre-temps. Et donc, on a commencé à discuter. J'ai compris que cette entreprise s'intéressait beaucoup à l'écosystème tech européen et français en particulier, voulait mieux le connaître, mieux le comprendre, et donc comptait aussi un peu sur moi pour les aider à découvrir cet écosystème tech européen. Et donc, je leur ai proposé, mais un petit peu comme ça dans la conversation, un peu comme on discute maintenant, de monter un fonds d'investissement ensemble. Et tout de suite, ils m'ont dit oui. Et tout de suite, on s'est mis d'accord sur une somme. Et donc, alors que je n'étais pas du tout partie en fait en levée de fonds, en réalité, je suis rentrée. Mais le fait est que j'avais levé 100 millions d'euros sans avoir d'équipe.
C'est la plus simple levée de fonds de l'histoire.
C'était assez incroyable, quoi. Et donc je suis rentrée et ensuite j'ai constitué l'équipe, créé le véhicule juridique pour investir. Mais tout s'est enchaîné après la levée de fonds, donc ça, j'ai fait les choses un peu à l'envers. Et je l'ai fait en plus en me disant que je poursuivais d'une certaine façon ce que j'avais commencé lorsque j'étais ministre en charge du numérique, puisque à l'époque j'avais beaucoup travaillé sur la question du financement des startups. Je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes, notamment sur la phase de croissance, lorsque les entreprises lèvent 10-15 millions et plus, que cette phase de croissance et d'internationalisation, c'est celle-là qui pose beaucoup de problèmes aux entreprises françaises. Et donc j'étais très contente de me dire qu'en tant qu'investisseur, j'allais pouvoir d'une certaine façon contribuer aussi à aider les entreprises qui se trouvaient dans cette situation.
Et alors, les entreprises que vous accompagnez, il y en a une dizaine aujourd'hui, JobTeaser, Avetesti, Obibi, on en reparlera peut-être. Est-ce que c'est aussi facile pour elles de lever des fonds auprès de Corelia que ça l'a été pour vous auprès de Naver?
Alors, ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est qu'il y a plus d'argent qu'il y a quelques années. En tout cas, il y a plus d'argent que lorsque j'étais ministre et qu'on cherchait un peu à consolider le secteur du financement de l'innovation. Et donc, aujourd'hui, il y a un autre phénomène, c'est que ce sont plutôt les entreprises ou les entrepreneurs qui choisissent leurs financeurs, qui choisissent leur fonds de capital risque, plutôt que l'inverse. Donc, en fait, quand il y a un joli deal sur la place, ce sont plutôt les VC qui se battent pour essayer d'être sur le tour de table que les entrepreneurs qui cherchent, enfin les très bons entrepreneurs qui cherchent des fonds. Donc aujourd'hui, il y a un petit peu un phénomène de sélection inverse où c'est vous qui devez séduire et convaincre les entrepreneurs que vous êtes le bon partenaire, le bon financeur. Donc pour les entreprises qui sont dans mon portefeuille, c'est effectivement des entreprises qui étaient plutôt chanceuses et qui avaient plutôt le choix de leurs investisseurs.
Et donc, on peut parler de Devialet, c'était le premier deal que vous avez fait avec Corelia. Un deal qui s'est fait aussi assez. Enfin, il y a une petite histoire quand même derrière ça. Je crois que vous avez emmené les enceintes en Corée pour les montrer au patron de Naver et c'est ça qui a déclenché.
Alors, c'est un peu un hasard ou des coïncidences. Il se trouve que j'avais rencontré les fondateurs de Devialet lorsque j'étais ministre en charge du numérique d'ailleurs. Et puis ensuite, j'avais suivi leur aventure parce que l'entreprise était jeune lorsque j'étais à la culture. Lorsqu'on a réussi à closer le fonds Corelia, enfin le fonds de Corelia avec nos partenaires coréens, les Coréens sont venus en visite, je leur ai montré le showroom de Devialet parce que je savais qu'ils s'intéressaient beaucoup à l'audio aussi. Comme Naver est en Corée un moteur de recherche, mais aussi un portail de shopping, de contenu, de news, etc. C'est évidemment une entreprise qui s'intéresse beaucoup à la fois au contenu, audio, vidéo, etc. Et donc je savais qu'ils avaient un tropisme stratégique un peu sur l'audio. Donc Devialet était susceptible de les intéresser, j'aurais fait rencontrer les fondateurs, montrer le produit, etc. Et en fait, c'est après que j'ai réalisé, que j'ai compris que Devialet était en train de lever, depuis pas mal de temps d'ailleurs, depuis plusieurs mois. Et donc nous, on est arrivé en toute fin de process, alors que là aussi, il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés et tout le monde n'a pas pu rentrer dans le tour. Et donc, c'est vrai que la négociation s'est passée très vite, en 3 semaines, 1 mois à peu près, donc c'était vraiment rapide. Et vraiment parce que j'avais souhaité faire découvrir la marque aux Coréens, sans quoi je pense qu'on aurait pu passer à côté.
Et justement, l'enceinte, représente la fantôme, que vous avez aussi évidemment ici. Est-ce que ça a vraiment été un élément déclencheur? Est-ce que, parce que j'avais interrogé dans le cadre de ce podcast Quentin, donc un des cofondateurs de Devialet, qui m'expliquait à quel point cet objet, à chaque fois qu'il le démontrait, c'était assez magique, quoi, ce qui se passait, notamment auprès des investisseurs.
Oui, pour moi, il y a une petite confusion, c'est que pour moi, Devialet n'est pas une entreprise de hardware, c'est une entreprise de software, c'est une entreprise qui a une technologie en fait qui est absolument incroyable, qui peut être dans le fantôme, donc dans les enceintes, mais qui peut être dans une télé, dans une box, comme c'est le cas aujourd'hui dans la Freebox ou dans la box de Sky. Donc pour moi, c'est surtout la technologie qui est importante, même si évidemment il y a une signature esthétique, design, parce que les objets sont des objets à la fois précieux, haut de gamme, et qu'ils embarquent une technologie qui est absolument incroyable. Et en fait, pour moi, ce qui est vraiment fantastique, puisque nous sommes des investisseurs qui sommes très proches des entrepreneurs, donc j'ai fait beaucoup de rendez-vous avec les équipes de Devialet, notamment en Asie, pour leur ouvrir des portes, etc. Donc j'ai assisté à beaucoup de démos, etc. Et pour moi, ce qui est vraiment fantastique, c'est lorsqu'on fait des démos où on compare, par exemple, le son d'une télé normale et ensuite le son en regardant n'importe quel film avec des effets sonores qui sont impressionnants. Donc la comparaison entre le rendu d'une télévision, même très très haut de gamme, et le rendu d'une box de Devialet, où on a l'impression quasiment d'être dans une salle Dolby au cinéma, c'est absolument incroyable. C'est très difficile à décrire avec des mots, mais quand on le vit, c'est vraiment stupéfiant, quoi. Et donc pour moi, c'est la technologie de Devialet et la miniaturisation, notamment tout ce qu'ils ont développé et qui a donné lieu à beaucoup de brevets, c'est ça qui est vraiment totalement incroyable. Plus que la première émotion qu'on a, même si elle était réelle, quand on écoute un fantôme, parce que l'objet est magique, mais c'est vraiment cette technologie qui s'applique potentiellement à plein de choses qui, pour moi, est totalement fascinante, quoi.
Et dans les autres startups que vous accompagnez, donc il y en a dans le jeu vidéo, il y en a dans des outils SaaS de RH, donc il y a vraiment des dans la blockchain aussi, donc des choses très très variées. Est-ce que vous avez une approche très hands-on, comme on dit, donc vraiment d'aller comprendre les sujets en détail?
Absolument, on essaye de le faire dans la mesure où les fondateurs nous le demandent. Et nous, la valeur ajoutée qu'on apporte avec Corellia, c'est évidemment un lien particulier avec l'Asie, des potentielles synergies avec le réseau qu'on a développé en Corée notamment, mais aussi au Japon, en Indonésie, enfin partout où nos investisseurs sont présents, donc Naver et Line. Et donc c'est ça qu'on essaye d'apporter pour faire gagner du temps à nos entreprises qui souhaitent s'internationaliser. Certaines d'entre elles ont moins besoin, par exemple JobTeaser, hein, qui est cette plateforme de SaaS en RH, recrutement, etc. Et une entreprise qui se focalise d'abord sur son expansion en Europe. Et donc là, on les aide si on le peut, mais enfin, ils ont moins besoin de notre valeur ajoutée singulière, par exemple en Asie. Donc on est très hands-on, on est très impliqué dans Kairos, par exemple, qui est cette entreprise absolument incroyable qui fait de la prédiction ou qui sait analyser en temps réel les mouvements et les stocks de pétrole brut et donc permet de développer des stratégies de couverture, de hedging ou d'achat qui sont très très pertinentes. Cette entreprise, je l'aide, pas seulement en Asie d'ailleurs, avec d'autres réseaux que je peux avoir et que je souhaite mettre à leur disposition. On est très hands-on sur toutes les entreprises dans lesquelles on est au conseil d'administration, et il y en a beaucoup, hein. Il y a OBB, il y a Memrise qui est aussi cette application d'apprentissage des langues, donc une très jolie edtech anglaise. Bitfury et Ledger qui sont nos deux entreprises de blockchain où on est également représenté au conseil d'administration, ABTesti. Et après, l'aide qu'on peut apporter, ce n'est pas forcément une aide business, ça peut aussi être les aider à trouver de nouveaux prospects, les aider dans le biz dev en fait. En tout cas, on est très très disponible pour nos entrepreneurs et je pense qu'ils sont très contents de ça.
Et vous avez mentionné une ou deux startups dans le lot qui ne sont pas françaises, donc vous avez une vision évidemment européenne.
Absolument,
de la tech. Et quel est l'enjeu aujourd'hui et quelle est la différence avec l'époque où vous étiez au gouvernement?
Bah, l'enjeu, il est exactement le même. C'est-à-dire que la raison pour laquelle moi j'ai fondé Corellia Capital et la raison pour laquelle je me suis bien entendue avec les Coréens, avec Naver, c'est que eux comme moi, le fondateur de Naver comme moi, étions absolument obsédés par l'idée de créer des contrepoids à la toute-puissance des multinationales, des big guys américains et chinois. L'influence des Chinois se fait plus sentir en Asie du Sud et du Nord-Est qu'ici, mais donc il y a un vrai enjeu de rétablir un terrain de jeu équivalent à un level playing field, donc à des conditions de concurrence en tout cas un peu normalisées, alors qu'aujourd'hui on voit bien que ces grandes entreprises sont en train d'acquérir des positions de marché qui vont être de plus en plus difficiles de contester. Et moi je ne souhaitais pas comme ministre, mais je ne souhaite pas comme citoyenne non plus, que le marché, l'économie soit uniquement dominée par des acteurs d'un seul pays et que ces acteurs ensuite on n'en soit que des prestataires ou que des fournisseurs. Je pense que compte tenu de la richesse de notre écosystème, on peut mieux faire. Donc au départ c'est parti de là, donc une idée un peu militante, hein, de créer des catégories leaders, des champions régionaux qui pourraient, grâce peut-être à des synergies entre l'Europe et l'Asie, devenir plus forts dans la compétition mondiale. Donc c'est ça la thèse au départ. Et donc l'investissement qu'on fait, on le fait dans des entreprises dont on pense qu'elles peuvent devenir ces catégories leaders, donc des champions dans certains secteurs. Et on les aide ensuite, on essaie de les aider à grandir, grossir, s'internationaliser pour devenir éventuellement pas le nouveau moteur de recherche ou le nouveau réseau social à la mode, mais pour essayer d'investir des champs de l'économie dans lesquels il y a encore la possibilité pour des acteurs européens de devenir dominants, quoi.
Et donc ça, c'est une théorie, évidemment, et un sujet qui est lié très fortement au risque. Donc c'est sûr que sur le nombre d'entreprises que vous allez accompagner, un certain nombre va échouer. Comment vous avez appréhendé cette notion du risque qui était différente de celle de vos précédentes fonctions, forcément ?
On essaie de professionnaliser au maximum les décisions qu'on prend. Donc on a une équipe, on est une dizaine aujourd'hui. On est trois partners associés dans le comité d'investissement, mais on est une équipe. Moi, j'ai toujours été très fan d'organigrammes plats, donc on a aussi des gens qui sont plus jeunes dans l'équipe, mais ils participent complètement avec nous à la discussion. Et en fait, quand on prend une décision d'investissement, déjà on fait une étude très très approfondie, hein, la due deal, on fait une étude très très approfondie du modèle d'affaires, de la qualité de l'équipe, des perspectives de développement, de la tendance du marché, on benchmark la concurrence, donc on fait vraiment une analyse très très complète de l'entreprise et de sa technologie. Et ensuite, on se forge une conviction, d'abord en discutant, et il y a beaucoup de délibération en fait dans ce métier, on parle pendant très longtemps, et parfois on vote aussi, on vote pour savoir si on souhaite miser sur cette entreprise. Donc on essaye, c'est pas un métier scientifique, hein, le capital risque, mais on essaye de professionnaliser au maximum nos prises de décision pour essayer de mitiger nos risques et pour faire en sorte de coller au mieux à la stratégie d'investissement qu'on s'est donnée, où effectivement on sait très bien que certaines entreprises ont mis beaucoup d'argent dessus, mais elles sont risquées, on peut perdre notre argent, c'est un peu le jeu du capital risque, hein. C'est pour ça qu'il y a risque dans l'intitulé, mais on essaye quand même d'objectiver au maximum ce qui peut l'être, quoi.
Et vous avez déjà raté un deal ou deux ou trois que vous regrettez?
Ouais, bien sûr, ouais. Alors c'est pas arrivé trop trop souvent, mais il y a certains deals qu'on a ratés parce qu'ils se sont transformés en deals plutôt de M&A, enfin qui ont il y a eu des acquisitions par des gros corporates,
hein. Lesquels?
Je sais pas trop si je peux les citer, mais si je dois pouvoir les citer, il y a eu Chauffeur Privé sur lequel on avait beaucoup travaillé, on a beaucoup beaucoup investi dans la relation et l'étude de cette boîte qui est très belle avec des fondateurs très talentueux, et puis il y a eu une offre qui a été faite par Daimler contre laquelle on pouvait pas lutter, mais du coup on a investi ensuite dans Taxify qui est une très très belle entreprise aussi estonienne, qu'on essaye de faire grandir et qui pourrait devenir un challenger, un numéro 2 de Uber, hein, ce qui est déjà le cas à Paris. Donc voilà, Chauffeur Privé, on n'a pas réussi à rentrer, mais d'autres VC n'ont pas réussi à rentrer non plus, puisque c'est pas finalement le deal qui s'est matérialisé. Il y a d'autres entreprises, c'est pas vraiment qu'on a raté, mais c'était pas forcément les moments où les entreprises levaient, mais moi j'aime beaucoup Doctolib par exemple, je trouve que c'est une très très belle boîte. Voilà, il y a deux trois entreprises sur lesquelles on aurait bien aimé rentrer, et puis on a pas une jolie de robotique aussi, mais finalement assez peu de regrets. Et quand on a été désireux de faire un deal, en général on a toujours réussi à se faire de la place, souvent grâce d'ailleurs à notre ADN particulier euro-asiatique en réalité.
Donc ça se matérialise comment aujourd'hui? C'est-à-dire que si certaines entreprises, donc, comme vous le dites, se focalisent comme job teaser sur le marché européen, mais qu'est-ce que vous apportez pour celle qui veut s'implanter en Asie? C'est quoi le...
Ça peut être plein de choses et c'est très différent en fonction du stade de maturité, des besoins de l'entreprise, etc. Mais ce qu'on apporte, c'est à la fois pour une entreprise qui a besoin d'avoir des contacts à un niveau décisionnel dans des grands conglomérats, par exemple, ça on leur propose et ça leur évite de perdre 6 mois, voire un an à essayer de trouver trouver le rendez-vous avec la bonne personne pour faire un POC, pour faire un premier contrat, pour rentrer dans des discussions soit techno, soit de business development. Donc ça, on leur facilite. Et après, ça peut être des choses très compliquées. Très concrètes, comme le fait de trouver un partenaire pour faire du retail, comme trouver un revendeur, comme trouver des opportunités de financement. Et ça ne se limite pas du tout à l'Asie, ça peut être aussi, compte tenu du réseau qu'on a, que Corellia a à Paris, ça peut être aussi entrer en contact avec des acteurs économiques français, et là aussi assez rapidement à un niveau décisionnaire. Ce qui est un gain de temps énorme. Et puis après, ça peut être de la présence. Là, il n'y a pas très longtemps, j'étais à un dîner d'AB Testing, par exemple. Donc, il y a une marketing tech qui fait de l'AB Testing. Un dîner avec un certain nombre de clients fidèles. Et donc, là, c'est plus de l'informel, mais c'est participer à l'animation de la relation de qualité avec leurs clients ou avec des prospects. Ça peut être... je participais aussi à un événement avec OBIBI qui voulait rassembler l'écosystème du jeu vidéo. Voilà, donc ce sont des petites choses, parfois pas directement liées au business, mais qui sont de l'implication en temps, en présence, en soutien. J'aide beaucoup Kairos aussi en ce moment pour essayer de développer, de développer son activité dans un certain nombre de secteurs. Voilà, donc dès qu'on peut, qu'on pense à quelque chose qui pourrait être utile, on le fait et on est très heureux de le faire. Parce que c'est ça qui est finalement, pour moi en tout cas, le truc le plus rigolo. Il y a toute la dimension analyse financière et choix d'investissement. Mais après, le fait d'aider l'entreprise à grandir, à réfléchir sur ses choix stratégiques et à gagner des parts de marché, à gagner... de la notoriété, etc. Tout ça, c'est l'accompagnement de l'entrepreneur, c'est ça qui est quand même très très sympa.
Et aujourd'hui, quand vous rencontrez des gens dans le cadre de Corellia, est-ce que vous sentez qu'ils commencent à vous percevoir moins comme ex-ministre et vraiment comme dirigeante de Corellia?
Je crois que ça s'est fait très rapidement, en réalité. J'ai eu l'impression assez rapidement que finalement, même si on était une équipe jeune et un premier fonds, en réalité, on avait tout de suite une crédibilité qui était assez bonne. Probablement parce que les autres personnes de mon équipe étaient des gens qui avaient beaucoup d'expérience aussi, soit dans des deals de fusion-acquisition en banque, donc une vraie capacité financière et de négociation, soit vraiment dans le capital risque, qui était le cas d'un autre de mes associés, Paul Degueuze, qui a 10 ans d'expérience dans le VC et qui connaît très très bien tout l'écosystème. Donc on avait une forte crédibilité liée à chacune des individualités de l'équipe et puis je crois que les gens ont bien perçu que tout de suite je m'étais mise vraiment de manière très opérationnelle dans ce nouveau métier, et je pense que beaucoup finalement voyaient en moi la potentielle investisseuse et plus tellement l'ancienne ministre.
Et vous regrettez rien aujourd'hui?
Non, absolument pas.
Surtout pas?
Non, mais pas par mépris ou par déception, mais parce que j'aime bien l'idée aujourd'hui, et je crois que c'est de plus en plus fréquent qu'on puisse avoir plusieurs vies professionnelles en une vie, qu'on puisse switcher. Alors dans mon cas c'est un peu radical. il y a beaucoup de distance finalement entre ma vie de haut fonctionnaire puis de ministre passé et ma vie actuelle, même si, comme je le disais tout à l'heure, il y a une certaine convergence de vision et d'objectifs. Mais j'aime bien cette idée qu'on puisse avoir plusieurs cycles professionnels. Je trouve ça plutôt agréable. Et j'adore l'idée d'apprendre un nouveau métier, j'adore ce que je fais, j'adore rencontrer les gens que je rencontre, j'ai un sentiment d'utilité aussi à leur côté, plus une liberté retrouvée qui est un vrai luxe pour moi. Donc non, aucun regret. Et au contraire, plutôt beaucoup d'enthousiasme et d'excitation dans cette nouvelle phase de ma vie professionnelle.
Et d'ailleurs, lorsque vous avez quitté la fonction publique, vous l'avez fait de manière publique en publiant votre lettre de démission, un peu comme les entrepreneurs aujourd'hui postent un médium sur médium pour expliquer un fait de leur carrière. Ça vous a valu quand même quelques retours, j'imagine, de la part de vos ex-collègues.
Non, parce que je pense que les gens ont bien compris que c'était à la fois un souci déontologique, parce que je trouvais et éthique même, parce que j'ai été fonctionnaire notamment à la Cour des comptes, donc j'ai vraiment le souci des deniers de l'État et de leur bonne utilisation, et j'avais pas envie de m'offrir ce passage dans le privé comme une espèce de parenthèse, en gardant la possibilité d'avoir ce filet de sécurité si jamais les choses tournaient mal. Or, c'était la possibilité que j'avais, c'est-à-dire que je pouvais rester 8 ans dans cette aventure entrepreneuriale, et puis si ça ne marchait pas, je pouvais revenir, toucher mon salaire et ma retraite plus tard à la Cour des comptes. Et je n'avais pas du tout envie de donner cette image-là, ni à mes actionnaires, ni à mes investisseurs, ni à mes équipes, ni à moi-même, en fait, dans le miroir. Donc ça, c'était la première chose. Puis il y avait une dimension aussi éthique. Je n'avais pas envie de peser sur le budget de l'État, alors que je faisais un choix de vie qui m'était propre et personnel, quoi. Donc voilà, maintenant, je ne jette pas du tout la pierre à ceux qui ne font pas ce choix-là et qui préfèrent rester fonctionnaire parce que, objectivement, j'aurais été embauchée dans une entreprise privée, je ne suis pas sûre que j'aurais démissionné. Donc là, c'était différent, je créais mon entreprise. Dans une entreprise privée, votre succès ou votre échec, ils dépendent de facteurs qui ne sont pas uniquement liés à vous-même. Vous pouvez mal vous entendre avec votre patron, enfin, il peut se passer des choses. Et donc, ça peut justifier que vous gardiez cette option de rentrer dans le public. Moi, je préférais prendre mon risque à 100%, quoi.
Et vous êtes habitué à ça, c'est-à-dire que vous avez été éduqué un peu comme ça, parce que votre papa était entrepreneur également, non ?
Mon père a créé son entreprise, oui. Alors, ça m'a plutôt, en fait, son exemple m'a plutôt découragé, puisque il a d'abord, il a été chercheur, effectivement, très peu de temps au CEA, et puis après, il a été salarié dans une entreprise, et il a fini par monter son entreprise à la fin des années 80. Il a monté son entreprise vraiment au tout début de la crise 87, vous voyez, 87-88, et il était sur un secteur de la recherche, la recherche médicale de pointe, en fait. Enfin, il vendait des instruments de recherche médicale de pointe sur le séquençage du génome, etc., qui est un secteur qui est très cyclique, très pro-cyclique, et donc quand il y a une crise, ils sont immédiatement, enfin les effets s'en font immédiatement sentir, et donc j'ai vu mon père vraiment monter son entreprise dans un moment qui était macroéconomiquement très compliqué. Ma mère ne travaillait pas, elle était femme au foyer, et c'était pas évident. Et donc, j'étais gamine, j'avais 13-14 ans, mais j'ai bien senti le poids que fait peser la création d'entreprise et le risque afférent sur les épaules de celui qui prend ce risque, quoi. Et je pense que ça m'a plutôt un peu... c'était une période un peu stressante, quoi, dans la vie de mes parents. Donc, pendant longtemps, je m'étais plutôt dit « jamais je créerai ma boîte ». Et puis finalement, les choses se sont passées comme j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire un enchaînement, un concours de circonstances. Et probablement, je me suis dit, c'est un peu le dernier slot où je suis capable de faire ça, parce qu'après, je serai trop vieille. Il faut de l'énergie aussi pour le faire. Il faut un
Comment
peu
ça,
de...
trop vieille c'est pas... Il y a une espèce de jeunisme dans la French Tech, je sais bien.
Ouais, mais je pense qu'à un moment, on est. Honnêtement, je suis sortie, moi, du gouvernement vraiment éreintée, physiquement, hein, au sens de. C'est une période de vie qui vous aspire beaucoup de choses. Donc je me suis, comme je suis très résiliente, tout de suite parce que j'étais excitée à l'idée de faire autre chose, je suis repartie très rapidement, mais je suis pas sûre que j'aurais eu cette énergie là dans 3-4 ans à partir de maintenant, quoi. Donc c'était un peu le dernier moment où je me disais bon, là ça va, les enfants sont grands mais pas trop, voilà, c'était le bon moment pour moi de prendre cette décision. Je suis pas sûre que je l'aurais prise 3 ans plus tard, et je suis pas sûre que j'aurais pris 10 ans plus tôt, quoi. Mais voilà.
À quel moment s'est passé le déclic justement de cette création ? Est-ce que vous vous souvenez vraiment de l'endroit où ça
non,
s'est passé ?
Non, il n'y a pas vraiment eu de déclic. En fait, les choses se sont faites un peu naturellement. C'est-à-dire que quand je suis rentrée de Corée, après ce que je vous ai raconté tout à l'heure, où j'avais levé un peu 100 millions sans me rendre compte, je me suis retrouvée là, j'étais dans ma cuisine, il y avait des travaux déjà aussi à l'époque. Donc j'étais toute seule, c'était en plein mois d'août. Enfin, j'avais eu ces discussions au printemps, disons, mais ensuite il y avait eu un certain nombre de discussions pour voir si c'était vrai, comment ça allait se faire, etc. Et donc la matérialité de ce commitment, comme on dit, donc cet engagement de Naver d'investir 100 millions, qui sont devenus ensuite plus tard 200 millions, mais à l'époque 100 millions, c'est vraiment matérialisé juste avant les vacances d'été. Et donc je me souviens que j'étais toute seule rentrée un peu plus tôt de vacances pour justement travailler avec les avocats, travailler sur la structuration du véhicule, etc. Et donc j'étais là, j'avais mis mon petit bureau, tout était bâché ici, mais j'avais mon bureau ici, et je travaillais à structurer la boîte, les statuts, etc. Mais il n'y a pas un moment où je me suis dit, bah tiens, je vais créer ma boîte. En fait, ça s'est fait parce que j'ai levé ces 100 millions d'euros, et après c'était naturel pour moi de créer la structure qui allait porter le véhicule d'investissement pour utiliser ces 100 millions d'euros. Voilà, donc il n'y a pas un moment où je me suis dit, tiens, je vais créer ma boîte. Ça s'est fait, il y a eu un enchaînement un peu
Vous avez hésité quand même, sincèrement, à un moment donné, vous vous êtes dit quand même.
J'ai pas hésité du tout. Il n'y a aucun moment où je me suis dit, est-ce que je fais bien de faire ça ? Parce que finalement, de toutes les possibilités qui s'offraient à moi à ce moment-là, rejoindre une grande entreprise, rejoindre un établissement public, c'était vraiment celle qui m'excitait le plus et que je trouvais la plus sympa, la plus...
Et vous en avez parlé quand même à certains de vos proches qui auraient pu être dans l'entrepreneuriat d'ailleurs, que vous avez assez peu.
Rétrospectivement, c'est probablement ce que je regrette, c'est que je me suis vraiment dépêchée au début, et puis c'était le mois d'août, donc c'était assez difficile. Vous savez, commencer au mois d'août, c'est assez difficile de joindre les gens, et j'étais assez pressée d'avancer parce que je suis souvent comme ça, j'aime bien que les choses aillent vite une fois que la décision est prise. Donc j'en ai beaucoup parlé à mon mari, j'en ai parlé un peu à mes parents, mais finalement assez peu. J'en ai parlé un peu à mon ancien directeur de cabinet, Sébastien Soriano, j'en ai parlé à quelques amis qui avaient été autour de moi dans ces dernières années, mais assez peu. Et rétrospectivement, je pense qu'au moment où j'ai créé l'entreprise, où j'ai assemblé l'équipe, etc., j'aurais dû prendre plus de conseils. C'est d'ailleurs souvent ce que je dis quand on me demande aujourd'hui mon avis sur l'entrepreneuriat. J'aurais dû solliciter plus de conseils au départ, pour éviter des erreurs un peu de débutants qu'on fait dans la gestion des ressources humaines, dans les choix de structuration d'entreprise, de gouvernance, etc., de prestataires, enfin plein de choses très terre à terre, hein, qui sont le quotidien de la vie d'un entrepreneur. Je pense que j'ai avancé un peu trop toute seule au début.
D'accord. Et vous, oui, donc aucun choix à regretter. Lorsque vous remettez un pied donc dans cet univers-là, de manière, enfin les deux pieds, vous faites le constat, vous remettez dans cet écosystème French Tech auquel vous avez contribué lorsque vous étiez ministre en charge de l'économie. Et qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous avez vu une vraie différence entre le moment où vous vous replongez dedans et le moment où vous avez commencé à vous intéresser vraiment à ces questions ? Il y a quoi ? Il y a peut-être 4 ans d'écart entre les deux ?
Ouais, 4-5 ans, ouais. 4-5 ans.
Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous avez...
La différence dans l'écosystème ?
Ouais.
Oui, il y a une différence parce que moi, quand j'avais commencé à travailler sur la constitution de l'ensemble de l'initiative French Tech, qui comprenait le volet communication, animation de l'écosystème, mais aussi les volets de financement, etc., j'avais eu le sentiment finalement, les entrepreneurs se parlaient assez peu. Alors, il y avait évidemment des petites communautés, mais qu'il n'y avait pas cet effet de réseau, d'écosystème qu'il y a beaucoup plus maintenant. Ça, c'est sûr, il y a plus d'événements. Il y a eu toutes les logiques de rassemblement d'entreprises dans des lieux un peu emblématiques. Station F en est un, mais il y en a eu plein aussi en région. Et donc, toute cette dimension de cohésion de l'écosystème est beaucoup plus forte aujourd'hui, ça c'est absolument indéniable. D'ailleurs, il y a plein de gens qui continuent à m'en parler récemment encore. Des gens de Grenoble m'ont dit, mais c'est incroyable, quand tu as lancé cette initiative de French Tech, finalement, on s'est rendu compte qu'on ne discutait jamais avec des centres de recherche, avec les entrepreneurs, avec les universités, etc. Et en fait, cette initiative French Tech a servi à agréger un peu tous ces gens qui se parlaient finalement assez peu. Donc ça, c'est bien. Ce que je note aussi, c'est qu'il y a une visibilité à l'international qui est beaucoup plus forte. Alors ça, c'est vraiment flagrant. C'est-à-dire que quand je me déplace maintenant partout dans le monde, quasiment, ce nom de French Tech, ce label est connu et reconnu. Et beaucoup de gens reconnaissent la qualité des composantes de notre Centech en France. Ce qui a pas s'échanger, c'est les problèmes que continuent à rencontrer les entreprises dans leur passage à l'échelle, en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment ça le gros problème, c'est-à-dire que c'est très très compliqué de conquérir des marchés à l'international, de faire grandir, de recruter une équipe multiculturelle. Or, aujourd'hui, si on veut être une boîte mondiale, on ne peut pas rester entre Français, on ne peut pas penser que Français. Donc, c'est ça qui est la grosse difficulté, quoi. C'était vraiment très dur parce qu'au moment où j'ai lancé l'initiative, il y a eu les histoires de Dailymotion, il y a eu les histoires de taxes à 75%, tout ça était à peu près un peu au même moment. Et donc, je me souviens très bien des voyages que je faisais après ces histoires-là à l'étranger pour essayer de vendre, parce qu'on avait lancé une grande campagne d'attractivité pour les investisseurs internationaux. C'était vraiment dur, quoi. Donc je ramais énormément. Et d'ailleurs, ça a mis plusieurs années avant de se enfin, le climat de confiance a mis plusieurs années avant de se réinstaller. Ça a commencé après en 2016-2017, mais au début 2012-2013, c'était très 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 chaud.
D'ailleurs, on se rappelle du mouvement des pigeons.
Exactement.
C'était un de vos premiers dossiers quand même.
Ouais, absolument. Donc une fois que tout ça a été en fait qu'on a réformé la taxation des plus-values de cession, que on a travaillé sur, on a fait tout ce travail sur l'écosystème, sur le financement. J'avais aussi lancé la réforme, enfin l'encadrement du crowdfunding. Enfin, il y a eu un certain nombre de signaux qui montraient que finalement, on était plutôt dans le sens de vouloir avancer avec les entrepreneurs, de créer un environnement favorable, etc. Et donc, ça a fini par se voir à l'international. Mais c'est vrai que le début était... et puis toujours, quand un gouvernement de gauche arrive au pouvoir, il y a toujours aussi cette suspicion que ça ne va pas être sympa pour les entrepreneurs. Donc, il y a le début, l'amorçage a été difficile. Et puis, une fois que ça a été parti, je dirais en 2013-2014, là, vraiment, ça a bien pris, mais c'est vrai que le début était très dur.
Mais comment vous expliquez finalement qu'au début, il y a eu cette incompréhension et surtout cette mauvaise connaissance de ce que c'est que l'entrepreneuriat, c'est-à-dire un start-upper qui vend sa boîte, il gagne de l'argent, souvent il réinvestit en plus. Comment vous l'expliquez, cette mauvaise compréhension ?
Je crois qu'il y a une déconnexion très forte entre le personnel politique et l'économie réelle, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance théorique, il y a une connaissance théorique qui date plutôt des années 80, 80-90, ou une connaissance qui est plutôt en surplomb et qui néglige un peu les aspects microéconomiques de ce qu'est la vie d'une PME. On peut connaître les grandes boîtes du CAC 40, mais pas forcément ce que c'est qu'une start-up ou qu'une PME. Et donc, je pense que c'est ça, c'est un vrai problème d'absence de porosité entre le monde politique et le monde de l'entreprise, un manque de connaissances mutuelles. Je ne jette pas la pierre qu'aux politiques. Hein. Je pense qu'il y a aussi une méconnaissance du côté des entrepreneurs de ce que sont les contraintes aujourd'hui du droit européen, des conventions fiscales bilatérales, de tout l'environnement réglementaire dans lequel on est, et de ce que sont les réelles marges de manœuvre des politiques, quoi. Donc, moi, je me souviens très bien que quand on avait justement, quand Hollande m'avait demandé de régler l'affaire des pigeons, règle-moi ça, m'avait-il écrit pendant le Conseil des ministres, qu'on avait donc créé les assises de l'entrepreneuriat avec plein d'ateliers où des gens, en fait, que ce soit des gens de l'administration ou des avocats, des entrepreneurs, etc., s'étaient mis dans des petits ateliers pour régler très concrètement des problèmes qui se posaient à eux. Tout ça avait extrêmement bien marché parce que finalement, il y avait peu de moments où l'administration arrivait à parler comme ça aux gens qui seront demain les sujets de la réglementation que l'administration édicte. Et donc ça, c'était vraiment formidable. Alors, on ne peut pas le reproduire à l'infini parce que ça fait perdre du temps à tout le monde. Enfin, pas perdre du temps, mais ça prend beaucoup de temps à tout le monde. Donc on ne peut pas faire ça pour tous les règlements et toutes les lois, mais tout ce qui est sorti de ces assises de l'entrepreneuriat, ça avait duré 3 mois, hein, beaucoup de travail de tous les côtés. Tout ça, ça s'est traduit dans des réformes qui n'ont eu aucun effet de bord ou aucun effet collatéral négatif, parce que tout ça avait été co-construit en fait par les principaux intéressés et l'administration. Donc ça marchait super bien. Ce problème de compréhension, je l'attribue à un problème de recrutement du personnel politique, de la diversité des profils qui sont aujourd'hui dans les gouvernements, dans les administrations. C'est une vraie difficulté. Je ne sais pas comment elle se règle, honnêtement, parce que ça peut en disant on va mettre des entrepreneurs au gouvernement ou réciproquement, qu'on va réussir à répondre à cette question. Mais elle est, à mon avis, elle est très, très, très critique. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, vous voyez bien les difficultés qui se posent sur les notions de vie privée, sur le problème de la taxation des GAFA, sur les problèmes d'économie de la donnée, d'intelligence artificielle, où il y aura des décisions très importantes à prendre du côté des autorités et où finalement, les sujets, les problématiques ne sont pas forcément bien appréhendés. Ce qui permet de penser que peut-être que les bonnes décisions ne seront pas prises, quoi. Donc c'est un sujet de vigilance et d'inquiétude un peu permanent.
Vous êtes toujours évidemment attentive à ces sujets, à ces questions, parce que elles vous impactent d'une autre manière, mais tout autant. Comment vous, est-ce que vous n'êtes pas tenté quand même de temps en temps de remettre les mains un peu dedans et
Non, parce que je fais partie de France Digital, donc cette association qui fédère les entrepreneurs, les start-upers et les investisseurs de l'économie numérique. Donc à travers cette association, on essaye de faire, faire porter une voix qui représente les intérêts de l'écosystème, bien sûr. Mais moi, je souhaite peu m'investir parce que déjà d'un point de vue déontologique ça me gênerait un peu de le faire et puis parce que finalement il y a assez peu de décisions, beaucoup de décisions de l'État en réalité impactent directement ou indirectement ce que je fais, mais finalement je me considère comme une contribuable ou une administrée ou une citoyenne comme les autres, et j'ai pas forcément envie d'influencer dans un sens ou dans l'autre les décisions qui sont prises. Donc, et puis d'ailleurs, j'en aurais pas forcément la capacité. Donc je préfère me mettre exactement dans la même situation que mes collègues ou mes amis de la French Tech. Et voilà, s'il y a une décision trop nocive qui s'apprête à être prise, là, on peut envisager d'intervenir, bien sûr, mais je ne le ferai pas en mon nom propre, je le ferai au nom d'un collectif ou du collectif qui est France Digital.
Et de cette époque, ministre, vos collaborateurs disaient que vous aimiez bien comprendre les dossiers et vous plongiez en général vraiment beaucoup dedans. Qu'est-ce que vous avez appris à l'époque qui vous reste aujourd'hui vraiment encore de ces questions numériques ?
Tout en réalité, parce que, surtout, je pense, une façon d'aborder les problèmes et le stress. Et ça vaut pour quand j'étais ministre du digital, mais aussi quand j'étais ministre du commerce extérieur ou de la culture. Je pense que c'est une espèce de formation qui vous donne un savoir-être, en fait, plus qu'un savoir-faire ou qu'un savoir tout court, qui vous permet d'aborder toutes les situations de tension et de stress de manière assez zen, en fait, parce que je pense que vous êtes confronté finalement au maximum de pression, de tension, de complexité dans les décisions que vous avez à prendre. Et donc après, tout paraît un peu facile, quoi.
Vous parlez notamment le meilleur dossier n'était pas forcément celui qui l'emportait dans un ministère sur une décision.
Bien sûr, on était beaucoup plus content quand on l'emportait, mais donc je pense que c'est plus une façon de résister au stress, c'est ça surtout qu'on apprend. Après, sur le plan technique, là j'ai évidemment appris plein de choses, surtout la diversité des dossiers qu'on est amené à traiter, même quand on n'a qu'un seul portefeuille ministériel est immense. Alors quand on en a trois, évidemment, ça permet de s'intéresser à plein de choses différentes, que ce soit la négociation dans les G20 commerce, au financement du déploiement du très haut débit, qui sont des sujets vraiment d'ingénieurs télécom, au financement de l'innovation, la question des crédits d'impôts pour les industries créatives, enfin vous voyez bien les architectes, les archéologues, enfin il y a une variété de sujets absolument incroyable. Donc d'un point de vue de culture générale et d'enrichissement personnel, évidemment c'est énorme. Et c'est vrai que moi j'ai toujours essayé, surtout sur les sujets très très compliqués que j'ai eu à traiter, il y en a eu certains où je me demandais comment on pouvait faire pour être ministre et ne pas comprendre ces sujets et prendre des décisions. Je pense à la question des intermittents du spectacle, par exemple, qui sont des sujets vraiment de questions sociales, en fait, de sécurité sociale, de régime de sécurité sociale, de cotisation, qui sont extrêmement compliqués pour savoir comment on fixe les curseurs. Et donc ça, prendre une décision sur la manière dont on essaie d'équilibrer ce régime, ou on fait en sorte que puisse perdurer ce régime qui permet à la France de s'enorgueillir d'avoir le plus grand nombre de festivals, de spectacles, enfin un spectacle vivant très, très dynamique. Comment on fait quand on ne comprend pas techniquement les choses ? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'on se met complètement dans les mains de son administration ou de ses conseillers. Donc c'est vrai que moi, j'ai toujours souhaité vraiment comprendre en bonne polarde les dossiers sur le plan technique avant de prendre une décision, parce que ça me paraissait impossible de décider autrement.
Et qu'est-ce qui était le plus difficile ? Est-ce que c'était de négocier en Conseil des ministres, ou est-ce que c'est négocier aujourd'hui lorsque vous avez un board ou avec vos investisseurs ?
C'est différent, parce que négocier et gagner un arbitrage, en fait, ça fait appel à tout un tas de choses qui sont à la fois un pouvoir de conviction technique sur le fond, c'est-à-dire convaincre que vous proposez la bonne décision. Et souvent, si vous gagnez, il y a quelqu'un d'autre qui perd. Donc, il faut que vous puissiez montrer que c'est plus important que vous gagnez plutôt que l'autre perde. On parle souvent d'arbitrages qui sont des arbitrages avec des conséquences budgétaires. Et ce qui était super, c'est que quand on était au ministère du numérique, de l'innovation et des PME, on était tous vierges d'expérience ministérielle parce qu'on avait toujours été dans l'opposition. Et en fait, en tout cas, dans mon cabinet, personne n'avait jamais fait de cabinet auparavant. Donc, on découvrait un peu, on connaissait l'administration, mais on découvrait quand même un peu le fonctionnement gouvernemental. Et en fait, je pense que tout ça nous a donné une espèce de fraîcheur et de candeur qui faisait qu'on était vraiment en mode commando et on gagnait plein d'arbitrage, en fait. Donc, on était... parce que probablement, si on avait été un peu plus aguerri, il y a des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé demander. Et là, comme on y allait vraiment très... un peu parfois en mode rouleau compresseur, on a gagné énormément d'arbitrage, de financement, de la French Tech, du très haut débit, la question des licences 4G. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles il y avait beaucoup de décisions en permanence à prendre. Et on en a gagné beaucoup avec une petite équipe de jeunes qui n'avaient jamais fait de cabinet avant. Donc ça, c'était vraiment très satisfaisant. Et aujourd'hui, être en board avec des investisseurs, ça fait appel probablement à plus de rationalité. C'est-à-dire qu'il y a moins, même s'il y a toujours un peu de politique dans la vie, il y a toujours de la politique partout, mais il y a moins de dimension politique, il y a plus de rationalité financière, économique, et il y a plus... il y a plus d'objectivité probablement dans les décisions qui sont prises parce que bah, les investisseurs, eux, ce qu'ils cherchent, c'est le rendement de leur placement. Vous cherchez à maximiser aussi votre, l'argent que vous arrivez à lever. Donc voilà, chacun a un agenda assez clair et donc les décisions, elles se prennent au croisement de ces agendas et de manière un peu plus objective.
Et à l'époque où vous étiez ministre, il y a également un autre élément fondateur pour la French Tech, c'est la Station F qui était en gestation. Vous en avez couvert un peu les tout débuts. Comment vous souvenez de ce passage-là et est-ce que vous prenez la dimension de ce que ça peut devenir?
Ah bah, là, je pense que vous devez pouvoir retrouver d'ailleurs en 2013 des articles de presse où je parle déjà de cet incubateur géant de start-up que je souhaitais pouvoir implanter à Paris parce qu'il me semblait important. Et pourquoi je disais ça? C'est parce que je voyais très bien ce qu'était en train de faire Berlin avec Silicon Alley, ce que Londres était en train de faire avec, je ne sais plus comment ça s'appelle leur Lototem, mais il y a un endroit, Tech City, je crois que ça s'appelle. Donc toutes les grandes capitales en fait qui se livraient la bataille de l'attraction des talents, des investissements, etc. étaient en train de mettre en avant des lieux totems où il y aura à la fois une circulation de l'information, des cerveaux, du financement, etc. Et même si ça pouvait avoir une dimension un peu artificielle, je trouvais que c'était important d'avoir un endroit à montrer si des VC de la Silicon Valley viennent visiter Paris, qu'il puisse y avoir un endroit où ils voient à la fois des startups, du Fab Lab, des financeurs, etc. Et donc, très rapidement, est née cette idée de créer un lieu totem, et pas seulement à Paris d'ailleurs, mais j'avais dit que pour être un label French Tech, il fallait avoir que les villes qui étaient candidates aient un lieu aussi comme ça, un peu totem, qui serait un lieu d'animation, de coworking, d'incubation, etc. Et donc oui, l'idée est née vraiment très très tôt, hein, vraiment 2013, hein, je crois, il doit y avoir quelques articles. Et ce qui est génial, c'est que souvent, on est dans le temps long, dans la politique, et on ne voit pas forcément les résultats des idées qu'on a. Et là, le fait de voir Station F aujourd'hui exactement conforme au plan, je me souviens que Villemot, Xavier Niel m'avait montré à l'époque dans mon bureau à Bercy, c'est vraiment génial. C'est probablement aussi lié au fait que le projet a été porté par un acteur privé qui a pu aller vite, qui a imposé aussi des délais. Peut-être que si le projet avait été 100% public, ça serait passé
pas vu le jour.
Un peu différemment. Mais donc c'est formidable, c'est absolument formidable. Donc le fait qu'il y ait eu à la fois la convergence entre une intention et des intérêts privés, une vision aussi d'un acteur privé puissant avec les poches profondes, mais impliqué dans l'écosystème, tout ça c'est vraiment chouette, quoi.
Et le fait de voir François Hollande aujourd'hui avoir un bureau là-bas, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je trouve ça plutôt sympa et ça me rappelle un peu les débuts de la campagne en 2011 où j'avais du mal, donc j'étais en charge du numérique dans la campagne, quand je mettais start-up dans un discours, ça revenait systématiquement biffé parce qu'il fallait plutôt dire jeune pousse ou je sais pas quoi, quand je parlais d'écosystème c'était rayé parce qu'on comprenait pas trop ce que ça voulait dire, donc l'acculturation s'est faite progressivement, mais je pense que le président avait bien compris à un moment qu'il y avait quelque chose, même s'il ne percevait pas forcément exactement quel pouvait être l'impact économique, l'enjeu, culturel, l'enjeu sociétal des transformations qui étaient à l'œuvre. Il avait bien compris qu'il y avait quelque chose qui se jouait. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je gagnais mes arbitrages, c'est que finalement, on me laissait les coudées assez franches. Et ça, c'était plutôt agréable. Même si, à un moment, pour passer à la vitesse supérieure, je pense qu'il aurait fallu que j'aie peut-être un peu plus de soutien et de compréhension, en fait.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui manque encore à cet écosystème ? On parle toujours de ce manque de diversité, ce manque de mixité, qui se résume à un manque d'accès aux chances, quoi, tout simplement. Comment on peut régler ça ?
Là, le problème, c'est que je pense que c'est pas propre à l'écosystème tech. Je crois que c'est quelque chose qui est un peu qui est propre au système de formation, au système des grandes écoles, au fait que l'entrepreneuriat attire assez peu. Les gens qui sont issus de contextes familiaux, socio-économiques un peu différents, probablement parce que c'est risqué. Et donc, quand on est un bon élève venant d'une famille un peu modeste, on a plutôt tendance à se tourner vers des choix professionnels qui sont peut-être moins risqués pour s'assurer une belle carrière. Ça tient à plein de choses différentes. Et donc, ce n'est pas uniquement une problématique de la French Tech, c'est une problématique de recrutement des grandes écoles, c'est une problématique d'ouverture de ces grandes écoles à la diversité. À mon avis, il y a plein de leviers sur lesquels il faut travailler. Nous, les financeurs, on arrive en bout de chaîne. Hein, et c'est vrai que moi, je me dis souvent que, par exemple, dans mon deal flow, donc dans le flux entrant de demandes de financement, j'ai très peu de femmes. Je ne parle même pas de la diversité d'origine ethnique, sociale, économique, etc. Je pense que j'ai vu la statistique fréquente, c'est de dire qu'il y a une entreprise tech sur 10 créée par une femme. Je pense que j'ai vu moins de 10% d'entreprises co-créées par des femmes dans les dossiers de financement qu'on a eu à traiter. Donc c'est moins que ça encore, je pense. Donc effectivement, il y a un vrai manque de diversité. Maintenant, pour moi, le sujet principal, ça, c'est un sujet qui se traite quand on a de la croissance, quand les entreprises vont bien, etc. Parce que ça donne aussi des rôles modèles, ça donne envie à d'autres gens. Pour moi, le sujet principal aujourd'hui, c'est vraiment la croissance des entreprises. C'est vraiment de prendre des réglementations qui ne sont pas toxiques pour les entreprises françaises. C'est faire en sorte de régler la question de la non-fiscalisation des GAFA. Parce que ça, ce n'est pas une croisade contre les Américains. C'est juste
c'est
une
un sujet que vous portiez déjà à l'époque.
Que je portais déjà, dont j'ai peur qu'il avance, même s'il y a beaucoup de déclarations d'intention, qu'il avance peu. Mais il est pour moi crucial parce qu'aujourd'hui, vous avez un problème. Dans, par exemple, le recrutement des ingénieurs qui sont spécialisés en intelligence artificielle au sens large, computer vision, machine learning, etc., sont beaucoup attirés par des entreprises américaines qui ont beaucoup de moyens et qui peuvent proposer des salaires mirobolants, alors que les Français ne peuvent pas forcément s'aligner, les Français ou les Européens. Et donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui d'égalité de terrain de jeu entre Le Bon Coin ou OVH, qui payent leurs impôts en France, ou là où ils font des profits en tout cas, et puis d'autres qui ne paient rien du tout et qui profitent pourtant de notre système de formation, de nos infrastructures. Donc il y a un vrai, vrai problème à régler. Ils le font en toute légalité, hein, c'est bien ça le problème. Donc ce ne sont pas des hors-la-loi, mais comme ce ne sont pas des ONG, des associations caritatives, il faut vraiment trouver le moyen de mettre tout le monde en situation d'égalité face à l'impôt, en tout cas. Donc ça me paraît être crucial. Donc croissance des entreprises, vraiment le scale-up. Faire en sorte que aussi l'Europe facilite davantage la consolidation. On n'a pas, nous, de Vision Fund, de fonds avec des milliards pour pouvoir consolider nos entreprises. Ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire que le destin aujourd'hui d'une entreprise qui a beaucoup de succès en Europe, c'est de se faire racheter par un Américain ou un Japonais ou un fonds asiatique. Et ça, ce n'est pas possible. Il faut qu'on ait des entreprises européennes qui soient capables de faire ça. Et quand je vois les tentatives de fusion avortées entre des grands industriels européens aujourd'hui, parce que la Commission s'y oppose, je ne peux pas m'empêcher de penser que on joue un peu contre nos intérêts et qu'il serait temps que la Commission européenne défende davantage les intérêts des acteurs économiques européens face à d'autres zones géographiques où ces problèmes de concurrence se posent en des termes différents.
Ils n'existent pas, tout simplement.
Ou n'existent pas.
Ce qui m'amène peut-être une dernière question sur justement ces jeunes startups aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Parce qu'on voit bien que l'environnement concurrentiel, enfin ne serait-ce que légal, pardon, en Europe est très compliqué quand vous voulez adresser le marché européen, c'est 27 marchés différents. Donc, qu'est-ce que vous leur dites ? Est-ce que vous leur dites, allez aux États-Unis, allez en Asie, ça va être ça va demander plus de cash, mais en même temps, ça va être plus simple d'un point de vue légal ? Ou est-ce que vous leur dites, non, il faut d'abord absolument grandir en Europe ?
Ça dépend complètement du secteur d'activité, du type d'entreprise, du type de service, du type de produit. En fait, il n'y a vraiment pas du tout une recette miracle. Il y a certains secteurs dans lesquels, effectivement, conquérir le marché américain, je pense au SaaS, par exemple, ou enfin un certain nombre de secteurs dans lesquels, si on veut vraiment avoir un effet d'échelle, évidemment, un marché comme le marché américain est génial parce qu'il est très vaste et avec une seule langue, une seule culture de consommation ou de business. Donc, c'est à la fois dur parce que c'est un marché qui est très dur à conquérir pour des Européens, mais en même temps, si ça marche, ça peut être le jackpot. Donc, ça dépend vraiment des secteurs. Pour le retail, par exemple, pour du hardware, c'est très compliqué de conquérir le marché américain parce qu'il faut créer une marque, il faut faire d'énormes dépenses marketing. Enfin, donc, il y a plein de choses qui dépendent vraiment du type d'entreprise que vous avez et du type de produit. Mais en revanche, pensez global comme l'ont fait les entreprises israéliennes qui avaient un tout petit marché intérieur ou comme le font des entreprises scandinaves ou des pays baltes. Hein. Moi, je suis investisseur dans Taxify. Taxify, c'est une boîte qui est dans un pays qui a moins de 5 millions d'habitants.
Elle produit plus de licornes que la France, hein, quand même, au passage.
Produit, mais c'est absolument incroyable le nombre parce que le pays est tout petit. Voilà, l'entreprise est déjà présente dans plein de pays d'Afrique, donc c'est pas trop poser la question de est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est pas compliqué. C'est vraiment y a un management qui s'est dit on y va et qui méthodiquement pose ses pions sur la map monde. Donc je pense qu'avoir cette volonté, enfin en tout cas cette vision d'internationalisation très très tôt. Si ça correspond évidemment au business model et au produit, très tôt dans la genèse de l'entreprise et l'intégrer toujours dans un pan de sa réflexion, ça me paraît être indispensable. Mais je crois qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, en tout cas ceux que je vois, qui sont parfois très jeunes, hein, qui ont entre 20 et 30 ans, intègrent beaucoup plus cette dimension que ça n'était le cas il y a quelques années. Et je pense qu'on est en train de voir émerger une nouvelle génération de fondateurs ultra talentueuses, ultra ambitieuses, très agressifs, mais au bon sens du terme. Et donc, moi, ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir de la French Tech ou de l'Europe Tech.
Et donc, quel serait votre pari si vous deviez mentionner une start-up française aujourd'hui qui serait vraiment
toutes celles de mon portefeuille. Mais il y en a beaucoup qui sont. J'en ai cité tout à l'heure. Il y a des Doctolib, il y a Vekia qui est une très belle entreprise. Dans la blockchain, Ledger peut devenir. Les cryptocurrencies ne sont pas très à la mode en ce moment, mais ça va probablement changer parce que la blockchain a un avenir. Donc, c'est une entreprise qui a beaucoup d'avenir. De Vialet, moi, j'y crois beaucoup. On a plein de jolies pépites qui sont juste avant ce plafond qui est un peu difficile à percer. Mais qui peuvent le faire, à mon avis, en étant bien aidés, bien accompagnés et soutenus.
Très bien, on va suivre tout ça. Merci beaucoup, Fleur Pellerin. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter Takeoff. Je vous remercie pour votre soutien, vos encouragements, vos critiques. Votre aide est précieuse, alors n'hésitez pas à noter ce podcast et surtout à vous abonner sur iTunes, Spotify, Deezer ou sur toutes les autres plateformes. À très bientôt pour un nouvel épisode.